De Paris où il est 14h10, 8h10 à Port-au-Prince, lors de retrouver le journal d'Haïti et des Amériques présenté par Marie Normand. Bonjour Marie.
Bonjour Adrien, bonjour à tous. J-1 avant l'investiture de Donald Trump. Hier, Barack Obama a donné quelques conseils à son successeur. Même s'il prend sa retraite politique, il ne s'interdira pas, on le verra, de s'exprimer publiquement sur certains sujets. Stéphanie Schuller a feuilleté pour nous les journaux du continent. Elle nous parlera notamment des discussions qui s'ouvrent entre le gouvernement colombien et la deuxième guérilla du pays, l'ELN. La presse réagit avec prudence. Nous irons aussi en Haïti. Jovenel Moïse n'a pas encore prêté serment qu'il est déjà au centre d'une affaire présumée de manipulation de fonds. Nous demanderons au journaliste Franz Duval si cela peut gêner ou non le futur président haïtien. Au Brésil, la crise dans les prisons empire chaque jour un peu plus. Les militaires sont appelés en renfort. Mesure exceptionnelle, explique le président Temer.
C'est une mesure audacieuse, mais le Brésil doit faire preuve d'audace pour faire face à cette situation.
Et puis nous vous parlerons de celui qu'on surnomme déjà le Schindler bolivien. Cet entrepreneur a sauvé des milliers de juifs de l'Holocauste. On vient seulement de le découvrir grâce à des archives laissées à l'abandon pendant des dizaines d'années. Les cartons sont prêts, la famille Obama quitte la Maison Blanche demain matin, jour où Donald Trump sera investi 45e président des États-Unis. Les célébrations débutent dès ce soir avec une série de concerts à Washington. Hier, la salle de presse était pleine à craquer pour la toute dernière rencontre entre Barack Obama président et les journalistes. Il a donné quelques conseils à son successeur. Barack Obama affirme aussi qu'il ne briguera plus de mandat. Il ne s'interdit pas cependant de s'exprimer publiquement sur certains sujets qui lui tiennent à cœur.
Il est important pour moi de prendre du temps pour digérer l'expérience extraordinaire que nous avons vécue. Je veux écrire, je veux être tranquille pendant un moment. Donc voilà mes priorités de cette année. Mais comme je l'ai déjà dit, je reste un citoyen. Nous avons un nouveau président et un congrès qui vont prendre leurs propres décisions. Mais il y a une différence entre le fonctionnement normal de la vie politique et certains sujets sur lesquels nos valeurs fondamentales peuvent être en danger. Je mets dans cette catégorie une discrimination systématique, des obstacles objectifs au droit de vote, des efforts institutionnels pour museler la presse, et enfin pour moi, cibler des jeunes qui ont grandi ici et sont réellement américains. Punir ces jeunes, je pense que c'est un sujet qui me fera m'élever publiquement.
Voilà Barack Obama hier. Dernière conférence de presse très commentée aujourd'hui par les journaux américains. Stéphanie Schuller.
Ouais, et pour ce dernier rendez-vous avec la presse en tant que président des États-Unis, Barack Obama débordé d'optimisme, estime USA Today, tout en mettant en garde son successeur, ajoute le New York Times, qui explique en une que tout le monde est désormais averti des lignes rouges que la nouvelle administration n'a pas intérêt à franchir si elle ne veut pas voir le bientôt ex-président revenir sur le devant de la scène politique pour défendre les valeurs américaines.
Et c'est donc l'heure des adieux qui arrivent, hein, Stéphanie.
Eh bien Marie, et après toutes les analyses pas toujours positives, disons-le franchement, hein, sur la présidence Obama, que la presse américaine a publiée, vous savez, ces dernières semaines, certains n'hésitent pas aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, à lui déclarer carrément une dernière fois leur flamme. Le Peoria Journal Star, un quotidien de l'Illinois par exemple, écrit « La présidence Obama a été cohérente, même certains de ses plus virulents adversaires concèdent que ce président et sa famille ont apporté de la grâce, de la dignité et de l'éloquence à la Maison-Blanche. Le New York Times donne la parole à ses lecteurs. Sa compassion avec tous, y compris avec ceux qui ont été en désaccord avec lui, va me manquer. Et plus encore, son incroyable capacité à laisser de côté ses sentiments personnels pour se concentrer sur l'objectif et sur la meilleure façon de l'atteindre, estime John du Nouveau-Mexique. Son don d'orateur, couplé à une intelligence saillante, ont servi à consolider la crédibilité de Barack Obama en tant que brillant dirigeant de la nation la plus visible du monde. S'enthousiasme carrément Robert du Tennessee. Mais Marie, il y a aussi des voix plus critiques comme celle de Sidney, un habitant de Chicago, qui écrit « L'élément le plus significatif de l'héritage Obama est probablement l'élection de Donald Trump. Que s'est-il passé durant sa présidence pour que le processus politique américain s'effondre ainsi? Au final, Barack Obama n'aura pas réussi réussi à imposer une autorité politique ferme, son style a toujours été dirigé par derrière. Ce style est peut-être adapté pour un président d'université, mais pas pour le président des États-Unis. Et la victoire de Donald Trump n'est rien d'autre que sa renonciation politique.
14h15, un pas à Paris et c'est un nouveau pas pour la paix en Colombie. Le gouvernement de Bogota et la deuxième guérilla du pays ont en tout cas annoncé hier l'ouverture de négociations officielles et ceci à partir du 7 février prochain.
Oui, l'annonce a été faite, Marie, par les deux délégations dans la capitale équatorienne Quito, qui a accueilli, comme vous le savez, ces dernières semaines les pourparlers préliminaires. Selon El Tiempo, la guérilla va finalement libérer le 2 février son dernier otage, l'ex-député Odin Sanchez. C'était, comme le rappelle le journal, l'une des conditions du gouvernement avant l'ouverture de négociations de paix avec la guérilla. De leur côté, les autorités colombiennes vont gracier en échange deux guerrilleros. Depuis Davos, où il participe au Forum économique mondial, le président Juan Manuel Santos s'est réjoui de la nouvelle.
Je peux vous dire que nous sommes arrivés à un accord et je voudrais dire que c'est une très bonne nouvelle pour le pays, car nous essayons d'ouvrir ces négociations officielles depuis plus de 3 ans et cela a été un processus très difficile. Mais la deuxième étape qui doit commencer le mois prochain est extrêmement importante, car cela nous permettra d'arriver à une paix totale, pas seulement avec les FARC, mais aussi avec l'ELN. Je voudrais remercier le peuple équatorien et le gouvernement de l'Équateur, car ils nous ont beaucoup aidés à préparer ces négociations officielles qui doivent commencer avec le ELN.
Voilà la déclaration du président Juan Manuel Santos. La presse colombienne, Stéphanie, se montre pourtant encore assez prudente aujourd'hui.
Oui, ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement tente d'impliquer la guérilla ELN dans un processus de paix. Mais jusqu'à présent, toutes les tentatives se sont soldées par des échecs. Ce qui explique que l'optimisme à l'annonce de ces nouveaux pourparlers soit plus que modéré, y compris au sein du gouvernement, explique El Tiempo. Le processus qui s'annonce sera difficile, estime aussi El Espectador, mais il est inévitable car pour pouvoir appliquer rien que l'accord de paix conclu avec les FARC, il est indispensable que l'ELN contribue à garantir la stabilité du cessez-le-feu, à délimiter le danger de la dissidence entre guérillas et à faciliter la participation politique, la solution du problème des drogues et la réforme rurale. Tous ces aspects nécessitent un engagement pour la paix de l'ensemble de l'insurrection.
Pour finir cette revue de presse, une information en provenance du Guatemala. Un frère et un fils du président Jimmy Morales ont été arrêtés hier. Ils sont soupçonnés de corruption, de fraude et de blanchiment d'argent.
Oui, tous deux ont été mis en cause dans une affaire de faux contrat d'alimentation pour le compte du registre général de la propriété, l'équivalent plus ou moins chez nous du cadastre en France. Les deux membres de la famille du président ont été placés en détention provisoire. Pour rappel, Jimmy Morales, un ancien acteur, a été élu en 2015 sur la promesse justement de faire le ménage dans ce pays qui est le Guatemala, gangréné par la corruption.
Merci Stéphanie Schuller. Votre revue de presse est à retrouver en version texte sur notre site internet www.rfi.fr.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et bonjour France Duval.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, avec nous chaque jeudi pour faire le tour des grands sujets de l'actualité haïtienne. On va parler avec vous du futur président Jovenel Moïse. Il n'a pas encore prêté serment, mais il est déjà au cœur d'un scandale. Alors, est-ce qu'on peut d'ailleurs parler de scandale à ce stade, France ?
Scandale, c'est un très grand mot. Disons que c'est une affaire qui traîne depuis longtemps et qui a été très mal traitée. Il y a un rapport partiel de l'Unité centrale de renseignement financier qui indique qu'il est possible que M. Jovenel Moïse manipule des fonds qui n'ont rien à voir avec cette entreprise. Il y a un juge d'instruction qui a sur son bureau ce rapport et qui n'y a pas donné suite depuis septembre 2016. Il faut dire que tout repose sur une dénonciation faite en 2012-2013 contre Jovenel Moïse par une banque opérant en Haïti. À l'époque, Michel Martelly est président et Jovenel Moïse ne fait pas de politique active.
Alors quel est le fond de ce rapport, France Duval ?
Tout repose pour le moment sur des sommes que le rapport indexe comme étant en dollars américains, une devise en cours en Haïti. Jovenel Moïse s'en est toujours défendu pour expliquer que les montants en question sont libellés en gourdes. Cela fait une énorme différence, soit près de 70 fois moins. La banque où le compte incriminé est domicilié doit donner sous peu sa version de l'histoire. Pour le directeur général de l'unité centrale de renseignement financier, il y a d'autres éléments dans le dossier, mais on ignore pour le moment lesquels.
Alors, Jovenel Moïse doit bientôt prêter serment. Quelles pourraient être les conséquences de ce dossier pour le futur président haïtien ?
Pour les partisans de Jovenel Moïse, il s'agit d'une boule puante, d'une tentative désespérée d'entraver, d'entacher la réputation du prochain président, une manœuvre de ses adversaires. Au Sénat haïtien, 4 sénateurs ont tenté de mettre en question sans succès la cérémonie de prestation de serment prévue pour le 7 février en réclamant que la cause soit vidée avant. N'ayant pas de force au Parlement, l'opposition ne pourra rien faire de ce côté. Pour l'opinion publique, la bataille n'a pas encore grande importance vu que les accusations traînent depuis des mois au devant de la scène sans des preuves tangibles.
Et quelles pourraient être les conséquences pour le bon fonctionnement des institutions ?
Alors, 3 institutions sont impliquées pour le moment dans cette affaire. La présidence, quand Jovenel Moïse sera président le 7 février. La Banque nationale de crédit, troisième banque haïtienne et propriété de l'État haïtien. Et l'unité centrale de renseignement financier. L'une de ces institutions risque de laisser des plumes dans cette affaire qui a trop traîné. Cela fait 5 ans que cette affaire dure et si on découvre que tout reposait sur une erreur dans un papier administratif ou sur une négligence, quelqu'un ou quelques institutions vont payer le pot cassé. Revenu de son premier voyage officiel à l'étranger en République dominicaine, le président élu Jovenel Moïse a déjà dit que dès le lendemain de sa prise en fonction, il va travailler à rendre les institutions plus fortes. Pour le moment, on ne sait pas trop qu'est-ce que cela veut dire.
Merci Franz Duval, rédacteur en chef du journal haïtien Le Nouvelliste. À jeudi prochain. Direction le Brésil, où le gouvernement a annoncé que l'armée allait pouvoir entrer dans les prisons. Des mutineries en série dans les centres pénitentiaires du pays ont fait plus de 130 morts depuis le début de l'année à cause d'une guerre sans merci que se livrent les gangs criminels pour le contrôle du trafic de cocaïne. Des soldats vont donc pouvoir venir en renfort et ça, c'est une première, François Cardona.
Téléphone portable, pistolet, couteau et même fusil mitrailleur, ces dernières semaines, les prisons brésiliennes se sont révélées presque incontrôlables, tant les gangs criminels y sont tout puissants. Pour tenter de mieux les contrôler, 1000 soldats vont être immédiatement mobilisés, mais leur nombre pourra augmenter si les mutineries se poursuivent. Les soldats seront chargés d'épauler les agents pénitentiaires pour effectuer des fouilles régulières des cellules, une mesure exceptionnelle que le président Michel Temer a décidé de valider pour les 12 prochains mois.
La première fois.
À cause du drame infernal qui a lieu dans les prisons du pays, pour la première fois, l'armée va pouvoir mener des inspections dans les centres pénitentiaires. Bien sûr, les soldats n'auront pas de contact avec les détenus. C'est une mesure audacieuse, mais le Brésil doit faire preuve d'audace pour faire face à cette situation.
À Rio de Janeiro, les agents pénitentiaires se sont mis en grève en début de semaine pour dénoncer leurs conditions de travail et les retards de salaire, mais les caisses de l'État sont vides. Les visites des familles ont été annulées, plusieurs bagarres ont déjà éclaté. La crise dans les prisons empire chaque jour un peu plus. François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
9h23 à La Paz, on l'appelle le Schindler bolivien. Maurice Rothschild, un juif allemand installé en Bolivie au début du XXe siècle, est devenu le patron d'un empire dans les années 30, un empire de l'étain. Si jusqu'ici les Boliviens connaissaient sa carrière d'entrepreneur, ils découvrent depuis quelques mois une facette cachée de cet homme. Il a sauvé des milliers de juifs de l'Holocauste. Alice Campagnol, vous êtes notre correspondante à La Paz. Pourquoi découvre-t-on seulement aujourd'hui l'histoire de ce Maurice Rothschild ?
Eh bien, c'est une histoire assez incroyable. En réalité, c'est dans les archives de la corporation minière bolivienne, la Comibol, que l'on a découvert donc l'histoire cachée de ce baron de l'étain, comme on l'appelle ici. Ces archives avaient été laissées à l'abandon pendant des dizaines et des dizaines d'années, et c'est grâce au travail acharné d'un nouveau dirigeant qu'elles ont été récupérées au début des années 2000, littéralement sorties des poubelles. Et après des années de tri et de lecture de ces kilos de papier, en sont sortis donc 300 mètres linéaires de documents à propos de Maurice Rothschild.
Alors ces documents, que révèlent-ils ? Qu'a-t-on appris grâce à ces kilos de papier ?
Eh bien, on y trouve des documents administratifs, comme des contrats de travail, par exemple, des documents de l'immigration, ou même des lettres envoyées à Maurice Rothschild. Il y en a une du gouvernement français lui demandant de prendre en charge 1000 orphelins juifs, et on retrouve la trace de ces enfants dans les garderies que le magnat de l'étain a fait construire. Alors, on ne sait pourtant pas exactement combien de juifs ont été sauvés. Les archives sont trop clairsemées, beaucoup ont été perdus. perdues ou détruites. Mais malgré cela, c'est donc une nouvelle facette de l'entrepreneur qui est donnée à découvrir grâce à ces documents.
Et aujourd'hui, l'histoire de Maurice Hochschild est amenée à être connue au niveau mondial et pas seulement des Boliviens.
Effectivement, puisque en octobre dernier, les archives qui le concernent ont été incorporées au programme de l'UNESCO Mémoire du Monde, programme qui recense les collections documentaires d'intérêt universel. Alors, pour les archivistes de la Comibol, certes, ces documents avaient de l'importance, mais ils ne les voyaient pas aussi précieux. Désormais, c'est un travail de fourmi qui démarre pour traduire certains documents qui sont en anglais, en français, en allemand ou même en hébreu pour les étudier dans le détail et pour les digitaliser également afin que le monde entier puisse en profiter.
Merci Alice Campagnol, correspondante de RFI à La Paz.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Marie.
Une question à la une de votre journal de l'Outre-mer. Benoît, fuite importante, coupure récurrente. Vous vous demandez si le réseau martiniquais de distribution d'eau ne serait pas à bout de souffle.
Il souffrirait au moins en tout cas d'un défaut de maillage entre les zones nord, sud et centre de l'île des Antilles. Du côté de l'amélioration et de la rénovation, pas de miracle à espérer. Ce sera long et ça va coûter beaucoup d'argent, selon Yvan Paquitte, président de la société de gestion d'eau et d'assainissement Odyssey. Il est au micro de Bertrand Caruge.
C'est la priorité de nos chantiers, pas seulement d'ici, mais pour l'ensemble des acteurs de l'eau de la Martinique. C'est ce qui s'appelle le rendement réseau. Et les chiffres sont clairs, nous avons des rendements réseau qui sont nettement inférieurs à ceux qu'on peut observer dans l'Hexagone notamment. Et ça coûte très cher pour refaire les réseaux, les renouveler. Il faut compter à peu près les besoins, puisque les moyens ne suivent pas. Il faut compter autour de 90 millions d'euros pour toute la Martinique. Il y a là-dedans les réseaux, mais également d'autres projets. La loi prévoit un rendement qui devrait tourner autour de 85%, alors qu'en Martinique, nous sommes plutôt autour de 60-70%. Ça va prendre du temps. Alors, ça ne va pas se régler en un an, ni en deux ans, ni en trois ans. Il faut compter une dizaine d'années, un plan sur le long terme. Chaque année, vous en faites un petit peu. L'objectif, c'est d'atteindre les 85%.
On reste en Martinique où le recensement commence aujourd'hui dans les communes de moins de 10 000 habitants, le Diamant, le Morne-Vert, Basse-Pointe, le Carbet, les Trois-Îlets. L'INSEE ira ensuite recenser une partie de la population des communes de plus de 10 000 habitants. Christophe Bassot est le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en Martinique. Il est au micro d'Audrey Govindin.
Dans tous les cas, un agent recenseur va venir frapper à la porte des habitants. Depuis 4 ans maintenant, on offre la possibilité aux habitants de répondre par Internet, ce qui est beaucoup plus simple. Ça fait gagner du temps à tout le monde et c'est vraiment très très intéressant pour tout le monde de répondre par Internet.
Alors, en tout cas, c'est un recensement qui devrait confirmer une donnée que vous avez à l'INSEE depuis quelques années déjà, même avant 2014, c'est que la population martiniquaise continue de baisser.
En effet, 2500 habitants de moins par an en moyenne sur les 5 dernières années entre 2009 et 2014. Donc c'est très important et c'est lié essentiellement aux migrations. L'immigration des plus jeunes, des jeunes de 20 à 40 ans, qui ont toujours eu vocation en Martinique à migrer, mais qui aujourd'hui reviennent de moins en moins fréquemment dans l'île, dans leur île natale, et ce qui est un peu dommageable pour l'activité économique et la survie de l'île.
En bref, hier en fin d'après-midi, les sénateurs ont rétabli l'article 20A de la loi sur l'égalité réelle en Outre-mer, article qui accorde une deuxième journée de commémoration aux victimes de l'esclavage colonial le 23 mai. C'est le sénateur de Guadeloupe, Félix Desplan, qui était à l'origine de la suppression, de la volonté en tout cas de supprimer cette date du 23 mai dans la loi. Il a d'ailleurs maintenu sa position dans l'hémicycle en disant, je cite, « trop de commémoration tue ». La commémoration, fin de citation et fin de cette édition. Bon après-midi Marie, à demain.
Merci Benoît Ferrand et merci à toute l'équipe d'Outre-mer Première. Merci aussi à Jonathan Brady qui réalisait ce journal comme chaque jour. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques, largement consacré bien entendu demain à l'investiture du nouveau président américain Donald Trump. À demain, toujours 8h10, heure de Port-au-Prince. C'est 13h10 en temps universel.
RFI parle au monde en français, mais aussi en 14 autres langues. RFI en espagnol.
Sintonice cada día nuestros programas en español. Entérese de la actualidad latinoamericana.
Écoutez RFI en espagnol à Saint-Domingue sur 90.9 FM et sur es.rfi.fr.